Je vous présente tout d'abord la prestigieuse affiche qui m'entoure. À ma gauche, Catherine Payon, qui est directrice de production du label. J'ajoute entre parenthèses et en soulignant courageux, label. Régional parce qu'il est implanté dans notre région et qu'il tient à y rester. Mais pas régional au sens réducteur du terme, parce que un label comme l'empreinte digitale prend sa place aux côtés des labels de dimension nationale. L'audace et la curiosité en plus. À l'extrême droite, si j'ose m'exprimer ainsi, éclat de couloir, non mais à l'extrême droite de la salle, et l'extrême gauche des spectateurs, responsable culturel du comité d'établissement des cheminots Provence-Alpes-Côte d'Azur, et tout à côté de moi, Lucien Bertolina, que je commence à connaître depuis un certain nombre d'années, qui va d'ailleurs se faire connaître beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Voilà, nous sommes réunis ici pour parler de quelque chose qui s'appelle « Cœur de fer », qui a été une réalisation qui est un disque. Le disque, c'est un des volets de ce qu'est « Cœur de fer ». C'est pas un roman initiatique d'un compagnon du Tour de France, hein. Encore que ça pourrait l'être. C'est pas non plus une de ces œuvres constructivistes russes des années 1920, style Pas d'acier, Le Bouffon ou Fonderie d'acier. Non, non, c'est quelque chose de tout à fait contemporain. Si nous vous avons réunis ce soir, c'est pour vous présenter, avant de parler du disque lui-même, toute une démarche. Une démarche dont l'origine se situe dans la curiosité, dans l'intelligence, dans la ténacité de responsables du comité d'établissement des cheminots qui ont cette originalité, comité qui a cette originalité de, entre guillemets, faire dans le culturel. Ce qui, à mon sens, ne doit pas être évident au départ, ce qui n'est peut-être pas aisé tous les jours, mais qui dénote, Claude d'ailleurs va le dire beaucoup mieux que je ne le ferai, ce que ça représente. Alors Claude Goulois, avant d'arriver à cœur de fer, que s'est-il passé? Quelles ont été les initiatives curieuses, courageuses, tenaces du comité d'établissement des cheminots? On n'est pas là pour poser des questions sur le fonctionnement du système Socrate, hein, je vous le dis. Pas de confusion.
Oui, je ne saurais pas y répondre d'ailleurs. Bon, d'abord, un comité d'établissement ou un comité d'entreprise, c'est quelque chose qui a pour fonction, c'est un organisme qui a pour fonction de gérer à la fois les œuvres sociales, sportives et culturelles d'une entreprise en direction des salariés de cette entreprise, et en même temps, il a une fonction, un regard économique sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, moi, je m'occupe de la partie culturelle en tant que personnel technique dans ce comité d'établissement. Ce qu'on a cherché à faire dans la mise en œuvre de notre politique culturelle, ça a été de faire se rencontrer. Bon, on a un réseau établi de bibliothèques, vidéothèques, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est que les salariés, que les cheminots puissent rencontrer l'art contemporain au travers d'activités qui s'inscriraient sur une longueur, sur un temps suffisant, pour qu'ils puissent avoir le temps de rencontrer à la fois l'art sous sa forme donc de production, mais en même temps les gens, les artistes qui mettent en œuvre et qui créent à un certain moment ces produits, enfin si on peut appeler ça les produits. Donc on a commencé, le comité d'établissement des cheminots est pas vieux, il a été créé en 1986, et on a commencé dès 1987 à travailler avec ce qu'on appelle des créateurs résidents. Le premier résident qu'on a eu, c'était un écrivain, il s'appelle Jean-Pierre Ostende, c'est un écrivain marseillais. Et on lui a demandé de faire un travail sur la mémoire des ateliers du Prado qui allaient fermer. Et donc, avec la fermeture de ces ateliers, disparaissait tout un ensemble, toute une mémoire ouvrière et tout un ensemble de savoir et de savoir-faire. Donc ça nous paraissait dommageable que cela disparaisse. Et donc, on a voulu marquer d'une manière originale cette mémoire. Donc pendant un an, Jean-Pierre Ostende allait deux fois par semaine, deux ou trois fois par semaine, dans les ateliers du Prado. Il rencontrait les cheminots et avec eux, il a discuté, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé dans le temps, dans ces ateliers. Il l'a retranscrit dans un livre qui s'appelle « Le Pré de Buffalo Bill ». Ce qu'on s'est aperçu en ayant ce genre de pratique, c'est qu'à la fois... Jean-Pierre Ostende a démarré avec des productions de poésie très, très contemporaines, donc pas d'un accès très, très simple. Ce qu'on a remarqué, c'est que le fait qu'il y ait cette rencontre régulière et sur un temps assez long, l'échange sur les techniques, sur les façons de procéder pour élaborer une œuvre permettait et ouvrait des possibilités d'accès à la création contemporaine. C'est-à-dire que Jean-Pierre Ostende, quand il était interpellé sur son écriture, il était obligé d'expliquer ses techniques d'écriture, et ça montrait que le travail d'un créateur, c'est à la fois, bien sûr, tout ce qu'il a dans la tête et qu'il a envie d'exprimer, mais c'est aussi... un travail à partir de techniques très conventionnelles et de pratiques à élaborer, quoi. Donc cet échange où l'écrivain avait besoin de mieux connaître les pratiques et les techniques des cheminots pour écrire son livre, et les cheminots avaient besoin de mieux connaître les pratiques et les techniques de l'écrivain pour comprendre ce qu'il allait faire et l'accepter ou ne pas l'accepter, puisque le jeu, c'était quand même un regard critique sur ce qui était en train de s'élaborer. Donc ça a permis à une trentaine de cheminots de s'investir complètement dans ce travail et d'avoir une ouverture assez complète sur l'écriture, enfin sur ce type d'écriture en tout cas. La présentation du livre après par le CE à l'occasion d'une manifestation, d'une présentation officielle, a réuni 250 personnes, et en moyenne toutes les présentations de ce qu'on a réalisé réunissaient entre 250 et 300 personnes. Donc on voyait qu'il y avait un double fonctionnement où on toucher en profondeur, c'est-à-dire on transformait des gens dans leur approche de la création. Donc là, c'était limité effectivement à 10, 15, 20 personnes. Et d'un autre côté, on attirait l'attention et on éveillait la curiosité de gens sur le travail des artistes contemporains. Et là, on touchait 250, 300 personnes. Donc, c'est pas négligeable du tout, parce que quand on sait que quand on fait un travail dans le secteur culturel, on peut ou bien uniquement tenir des statistiques et ne pas s'occuper des contenus, et alors là, il n'y a pas de problème, il suffit de répondre massivement à la demande et on fait monter les statistiques. Ou alors inversement, on se préoccupe des contenus et on a envie d'apporter quelque chose aux gens et de leur permettre de découvrir des secteurs. Après, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, c'est leur problème. Mais en tout cas, essayer de faire ça. Et là, en travaillant sur les contenus, ça devient très compliqué parce que c'est pas toujours d'un accès si simple que ça. Et la musique est un bon exemple. Donc après Jean-Pierre Ostende, on a eu d'autres expériences avec trois femmes écrivains qui sont intervenues sur la correspondance dans trois lieux, Avignon, Marseille et Nice, c'est un comité d'établissement régional. Ensuite, on a eu un autre écrivain qui a travaillé avec les contrôleurs, avec le personnel roulant de la SNCF. Là, toujours pareil, enfin, toujours des échanges comme ça sur la durée. Et on a eu, quasiment en même temps qu'on avait Michael Gluck, donc l'écrivain qui travaillait avec les contrôleurs, on avait Lucien Bertolina, donc, qui a travaillé sur les sons et les bruits et les voix qu'il y a dans un espace qui s'appelle une rotonde. Et ça, c'était à Avignon. Alors comment ça s'est passé avec Lucien Bertolina? En même temps qu'on élaborait qu'on développait notre politique culturelle en direction de résidence, comme ça, un peu longue, on se disait que ce travail sur la mémoire, finalement, c'était bien de le faire par écrit, c'était bien de le faire en photographie aussi, on a travaillé avec des photographes, mais ça nous paraissait bien aussi, puisque ça fait partie intégrante de la mémoire, c'était bien aussi de le faire à partir de l'environnement sonore des gens. Et le lieu qui nous a paru le plus idéal, c'est la Rotonde d'Avignon, parce que la Rotonde d'Avignon, c'est un immense bâtiment sphérique, avec au milieu une plaque tournante, et cette plaque tournante dessert 36 voies, et chaque voie est un atelier particulier, un atelier de réparation particulier. Donc il y a autant de métiers différents dans ces lieux et de sons différents, donc identifiables par rapport à ce qui se répare à ce niveau-là. Donc c'est la Rotonde, ça répare essentiellement des locomotives, hein, diesel ou électriques. Alors, une fois qu'on avait eu décidé de travailler sur la mémoire sonore, bien sûr, il fallait la personne qui puisse réaliser ça. C'est-à-dire, c'est pas le tout de faire une collecte de bruit. Encore faut-il agencer ces sons, ces bruits et ces voix pour en faire une composition. Donc, il existe des musiciens qui travaillent essentiellement là-dessus, et Lucien Bertolina en fait partie. Donc, on a pris contact, on est allé ensemble voir le lieu et rencontrer les gens, voir si ça semblait quelque chose de possible. Et je crois que les cinq premières minutes qu'on a passées dans le lieu, enfin moi je le connaissais bien, mais Lucien ne le connaissait pas, je crois que tout de suite il y avait suffisamment de matière pour qu'il ait envie de faire ce travail. Donc après, bon, bah, le déroulement s'est fait... on pourrait dire naturellement, c'est-à-dire par la présence de Lucien dans le lieu deux fois, trois fois la semaine, ça dépendait des fois. Le CE a mis à la disposition de Lucien un local pour qu'il puisse avoir un studio sur place, de façon à ce que les cheminots qui suivaient son travail puissent écouter les états successifs de son travail. Donc ça permettait là d'avoir un petit... ça avait un petit côté pédagogique, c'est-à-dire qu'on... Ça permettait d'expliquer un petit peu comment il procédait pour composer sa musique. Voilà, je vais pas trop en dire. Après, s'il y a des questions, je répondrai aux questions.
Oui, c'est ça. Moi, ce qui me paraît intéressant dans cette démarche du comité d'entreprise, c'est à travers différentes facettes d'expression artistique, c'est de mettre en contact deux mondes qui, hélas, pour des raisons sur lesquelles nous ne disserterons pas ce soir, ne sont pas en communication, c'est-à-dire le monde du travail et le monde de la création artistique. Et je crois qu'il y a là une démarche originale de ce comité d'établissement qui a nécessité de la part de vous, je le sais, bon, on ne développera peut-être pas ça ce soir, mais qui a nécessité des discussions pour faire avancer cette idée, mais les a fait avancer ces discussions de façon positive, puisque le résultat est là. Tu parlais du livre d'Ostende, tu parlais des photographies, je peux parler, pour l'avoir lu, du beau livre « Vladivostok, elle est simple » de Michael Gluck, qui est vraiment... une fiction dans laquelle on retrouve des éléments de la vie de tous les jours de gens, d'un travail que nous ignorons. Voilà, donc ça c'est la première étape, l'environnement qui a fait le déclic, et maintenant le créateur. Lucien Bertolina, successeur d'Hector Berlioz, qui en son temps écrivit un hymne des chemins de fer, d'Arturo Neguer, qui en son temps écrivit Pacifique 231, de Ettore Villa-Lobos, qui écrivit Un petit train de, je me rappelle plus où, dans une de ses bacchanates, Brasileiras, de Serge Prokofiev, qui a utilisé le bruit du train dans Cantate le bûcher d'hiver, etc., etc. Compositeur que j'ai surnommé dans un article qui fera date dans la critique musicale, Bertolina, le compositeur qui fait chouchou. Ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle, parce que ce qu'il a vu, ce sont des diesels et des locomotives électriques. Mais enfin, il y a toujours ce mythe de la locomotive, le panache de fumée, le bruit des bielles, ben, ces trucs-là, très très beaux. Alors, le compositeur qui fait chouchou, Lucien Bertolina, qui d'ailleurs demande qu'on ne le présente pas que comme compositeur, qui veut aussi qu'on le présente comme preneur de son, qui veut qu'on le présente comme pédagogue. Qui veut qu'on le présente. Enfin, s'il ne le veut pas, moi je sais qu'au fond de lui, il souhaite ça. Non, mais et il a tout à fait raison de ne pas être enfermé dans une seule catégorie, une seule de ces tiroirs qu'on sort. Compositeur, voilà, c'est là. Non, c'est un homme aux multiples facettes. Et malgré le nom de cette œuvre, ce cœur de fer, je peux vous dire que le cœur de Lucien est un cœur qui bat très fort et qui est un cœur très humain. Il va vous le montrer. Alors, Lucien. Oui, c'est ça. Bon, ça fait toujours beaucoup d'effet. Lucien, bon, Claude a dressé le tableau. Il a dressé en particulier le tableau de ces rotondes où on pénètre dans un autre univers, comme dirait Éluard. C'est un autre monde, mais il est dans le nôtre. Et alors là, tu as rencontré un lieu, tu as rencontré des engins, tu as rencontré des machines, tu as rencontré des hommes. Eh bien, pendant quelques minutes, tu nous racontes ce qui s'est passé. Je crois qu'on pourra procéder de la façon suivante. Après quelques minutes de présentation, il y aura une première écoute musicale, un petit extrait que Lucien vous présentera. Et puis ensuite, on pourra continuer, avant de donner la parole pour clôturer par celle autour de qui nous sommes rassemblés par le disque. Nous pourrons procéder par un jeu, si vous le voulez bien, d'échange entre la salle et nous-mêmes. Alors Lucien, à toi maintenant. Vas-y, fais chouchou.
D'accord. Bon, moi je vous remercie d'être venu premièrement. Et en même temps, quand je regardais, là vous avez le disque du côté où il y a l'image, et moi j'ai du côté où il y a le titre aussi, le cœur de fer. Un petit peu avec le recul et en me sentant ce soir ici présent à la FNAC, je me dis, tiens, tu as eu la chance quand même de participer comme ça à une opération dans laquelle tu es partie prenante de tout ce qui se passe, c'est-à-dire en amont, en aval, c'est-à-dire de la commande du CE, jusqu'à la sortie comme ça, en passant par le concert, jusqu'à la sortie du disque. Et ce qui me paraît être la partie que j'appelle la chance, c'est d'avoir vécu tout ça, c'est-à-dire en sachant tous les risques en même temps qu'on prend en route, les risques relationnels, les risques financiers, les risques d'organisation, etc., etc. Et pour sentir qu'en même temps quelque chose qui est d'un monde comme ça, de monde ferroviaire, les cheminots, on en arrive jusqu'à parler d'un disque qui est vendu à la FNAC. Et quand je pense en même temps à ce disque et à l'édition,
et il y a,
par exemple, oui, et en même temps, il est jusqu'au bout une prise de risque, quoi. Enfin, c'est un petit peu. Alors, les prises de risque, on en prend tous, ça c'est évident. C'est bien de les prendre chacun où on peut dans les domaines où on peut, parce qu'on peut pas prendre tous les risques. Mais ce que je trouve quand même particulier et enrichissant, c'est que ces prises de risque dans des domaines différents s'entrecroisent et se renvoient les. Voilà. Donc là, c'était un petit peu pour me mettre en voie, parce que j'ai toujours un petit peu de difficulté. Alors, quand je suis arrivé à la rotonde, comme disait Claude, effectivement, c'est un lieu qui est magique, parce que c'est un endroit qui regroupe à peu près 350 cheminots. La première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Ils travaillent pas beaucoup, ces gens-là. C'est pas possible, quoi. Parce que tout est en alvéole, donc les locomotives arrivent, elles sont mises dans des garages, selon la panne qu'elles ont, on les répare. Et puis on voit les gens promener avec des caisses, et ça fait un peu penser par moments à des films de Tati, quoi. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à la SNCF, peut-être on travaille pas beaucoup, quoi, parce que c'est aussi une mode pour faire passer le reste, etc. Et comme je suis en même temps, je me méfie des premières impressions, j'ai fait attention, parce que c'était aussi le but de mon travail, qu'il fallait que je me mette quand même à l'écoute des choses, quoi. Je le savais aussi au départ. Et avec le temps, je me suis aperçu que non, que les gens, au contraire, travaillaient beaucoup, mais c'est tellement des mondes comme ça où c'est diffus, qu'on a l'impression que tout le monde tourne en rond. Alors la première arrivée dans ce lieu magique, c'était en même temps de faire la collecte de bruits, puisque j'allais composer à partir de ces bruits. Être en tant que compositeur, c'est-à-dire quelqu'un qui allait agencer pour aller peut-être vers une musique, je n'en savais pas au départ, mais qui en tout cas devait aussi travailler sur la mémoire, c'est-à-dire ne pas prendre ces bruits uniquement pour en faire sa propre transposition et les renvoyer ensuite dans un concert ou sur un disque, mais avoir toujours en tête qu'il fallait que les cheminots se reconnaissent dans tout le cheminement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sois pas là à leur avoir pris des choses, les avoir transposées de mon côté, sans qu'ils se reconnaissent quelque part à la fin. Donc ça a été une première, quelque chose à bien sentir. La relation donc avec les ouvriers, je dis les ouvriers parce que j'ai pas l'habitude de dire les cheminots, mais de temps en temps je dirais ouvriers, de temps en temps cheminots. Ça a été au départ, par exemple, ils avaient l'impression, parce que même s'ils étaient au courant par des affichettes que le CE avait pu faire de mon arrivée, de mon intervention, que j'étais là pour prendre le taux de tolérance des capacités auditives, c'est-à-dire que quand on dans une usine, il y a trop de bruit. Donc avec mon agra et mes deux micros, ils savaient que je faisais la prise de son, mais ils se demandaient si j'étais là pour savoir si on dépassait pas les 80 décibels, parce que 80, et c'est vrai qu'ils sont au seuil et parfois plus. Donc il y a toutes ces, effectivement, ces passages à faire. Et en même temps, ce sont des relations intéressantes parce qu'on parle de leur travail, de leurs conditions de travail. Moi, je leur parle de mon travail et le tissage se fait comme ça. C'est-à-dire que ça demande du temps. Donc en même temps, je fais là un peu des allers-retours. Le fait de travailler sur un an, et c'est le principe de la résidence, ça permet tous ces allers-retours. Ça permet d'entrer dans un monde que l'on ne connaît pas et dans lequel on va commencer à comprendre ce qui s'y passe pour essayer d'avoir la globalité dans la tête pour commencer à prendre des sons, parce que prendre des sons c'est bien beau, mais il faut quand même comprendre à peu près les démarches, comment ça fonctionne au niveau de l'usine pour commencer à s'y repérer. Et c'était un travail donc qui permettait ces allers-retours entre leur propre travail au quotidien et ce qu'ils percevaient de ce que j'allais faire une fois qu'ils savaient que j'étais pas là pour mesurer le taux de bruit des 80 décibels. Donc ce lieu, c'est un lieu qui est sans arrêt, il y a une présence au nord, puisqu'en même temps ils travaillent 24 heures sur 24. C'est vrai que la nuit, les sont moins présents. C'est un lieu qui regroupe 350 ouvriers, cheminots. Le matin, il commence à 7 heures. Donc j'étais là le matin à 7 heures, bien sûr, parce que je tenais à commencer avec eux et pas arriver. Ce sont des détails, mais qui pour moi sont fondamentaux et très importants. Le soir, il termine vers les 4 heures. Il y a une heure de pause entre midi et demie. Et moi, je suis un peu habitué à boire du vin et je me suis aperçu que les cheminots, effectivement, ne boivent pas du vin du tout quand ils travaillent, quoi. C'est des détails aussi qui sont pour moi importants. Donc tout le circuit, j'ai mis à peu près 4 mois pour faire toute la récolte de ces sons, en passant dans les différents ateliers. Et toute l'initiative, c'était en même temps aller dans les lieux de travail, mais faire venir les cheminots dans le lieu où je pouvais leur faire écouter des choses. Donc Claude disait au départ qu'effectivement j'avais un petit local qui faisait à peu près 4 mètres sur 4, dans lequel j'avais installé une sono. Et je leur faisais écouter des travaux que j'avais faits ou quelques compositeurs de musique contemporaine. Et en discuter en même temps sur la prise de son que je réalisais. Donc c'est sans arrêt cet aller-retour entre les cheminots, mon travail, le lieu de l'usine, c'est-à-dire où j'allais prendre les sons, et en même temps le lieu où je commençais à écouter, à agencer, etc. Alors là, je peux paraître peut-être un peu long parce que c'est des détails, mais je pense qu'une expérience comme ça ne peut être réussissable si elle est réussie, mais en tout cas réussissable qu'à condition de tisser des liens comme ça, que chacun trouve bien sa place et comprenne bien le rôle de l'autre, quoi. Donc au bout de ces 4 mois dans lesquels je me suis pénétré de la rotonde et j'ai enregistré des bruits, je me suis mis donc à travailler en studio, c'est-à-dire dans un studio personnel que j'ai, pour agencer tous ces bruits, puis commencer à faire une composition. Donc en même temps, je pensais à la composition. Peut-être après, si on parle, on se pose des questions. Il y avait en même temps l'optique du concert, c'est-à-dire que le concert a eu lieu à la rotonde, c'est-à-dire dans cet endroit immense où on avait mis un peu des haut-parleurs de partout, enfin type concert électroacoustique comme fait le GMEM à Marseille, etc. Quand il l'utilise en dehors des salles de concert, c'est-à-dire qu'il comme au Jardin des Vestiges ou des lieux comme ça, c'est-à-dire prendre en compte le lieu avec toute son histoire et en même temps sa géographie, son espace. Donc en même temps que je composais pour le concert, il fallait que je pense à la composition du disque. Et c'est pas évident après que si on en parle qu'on ait un peu le temps de... Parce que quand vous faites une diffusion comme ça pour un lieu et qu'ensuite vous pensez que ça va être édité dans un disque et qu'en même temps on va pas retrouver le lieu de diffusion, c'est-à-dire l'espace réel dans lequel ça a été fait, mais c'est uniquement d'haut-parleur, on a toute une préoccupation en tant que compositeur de se dire comment trouver cet équilibre. Parce qu'en même temps, on n'a pas le temps, et ça serait vraiment des demandes qui seraient idéales, mais c'est-à-dire d'un coup de penser à concert et de penser à disque. Comme un cinéaste qui pourrait penser à un film pour, avec le même sujet, etc., la même matière, une construction cinéma, une construction télévisuelle. Donc il y a toute cette préoccupation... qu'effectivement on passe sans arrêt d'un à l'autre. Donc pendant la composition, je retournais quand même régulièrement, c'est-à-dire plus deux jours, mais un, à la rotonde pour faire écouter l'évolution de mon travail au cheminot. Alors sur 350 ouvriers, il ne faut pas se faire d'illusions, il y en a 25, à peu près 20-25, qui faisaient régulièrement ce parcours, c'est-à-dire d'un passage en suivant mon travail, et il y en a 8 qui ont participé au concert. Alors le lieu du concert, ça a été la rotonde, je disais au départ, on a installé des haut-parleurs avec une console de mixage, et en même temps c'était le lieu où il y avait encore les locomotives, ça s'est passé la nuit, donc il y a eu un travail d'éclairage, et là les 8 cheminots, on a passé 2 jours entiers, c'est-à-dire à préparer la lumière. Alors il y a encore des choses qui me font rire comme ça, parce que si on organise, je pense quand on est même dans une institution par exemple, qu'on organise un concert, admettons qu'il revienne 50 000 francs, 60 000 francs, hein, avec tout ce que ça comporte. Là, s'il avait fallu tenir compte, c'est-à-dire de la non-présence des cheminots, c'est un concert qui aurait certainement coûté le double. Pourquoi ? Parce que des choses aussi simples que ça, c'est-à-dire des endroits, il y a des fosses de 2 mètres de profondeur sur 2 mètres 50 de large, et on avait décidé d'installer le plateau pour le public à cet endroit-là. En une demi-heure, tout a été bouché, c'est-à-dire ce sont des fosses qui font à peu près 25 mètres de long sur deux. Pourquoi ? Parce que les 8 cheminots qui travaillaient avec moi à la préparation du concert ont pris les Fenwick, sont allés vite chercher les tôles d'acier dans les trucs à côté, poser les tôles, c'est à un quart d'heure. Alors que si on avait fait appel à une organisation extérieure, c'était un travail fou. Et ça, sans arrêt, c'est-à-dire pour aller mettre des haut-parleurs sur des hauteurs de 25 mètres sur les locomotives, le Fenwick arrivait, tout le monde s'y mettait, on mettait le haut-parleur, on l'attachait, etc., etc. Donc, quand je disais au début que tout est relation, c'est-à-dire que je me sens le cœur de quelque chose au départ parce que j'ai eu la chance de participer à ça, c'est en même temps un travail de relation humaine. C'est un travail pour moi qui est me poser le souci d'être entre la mémoire et la musique. Et en même temps, toute cette relation des gens qui participaient et qui étaient à la base de ce projet. Alors j'ai certainement oublié des choses, bon, on va écouter un petit extrait qui s'appelle le disque est composé de plusieurs tableaux, c'est-à-dire que il y a 13 tableaux jusqu'au final quoi. Le premier tableau s'appelle la plaque tournante parce que c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire que c'est elle qui oriente tout le travail puisque les locomotives arrivent, sont remises dans des... Et le matin a lieu la situation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la situation, c'est quelqu'un qui vient avec les représentants des équipes et qui dit telle locomotive 4723 etc. cet après-midi tel entrepôt pour la réparation donc visite limitée, très grande visite etc., etc. Et donc toute la démarche de la composition, c'est de passer d'un atelier à l'autre comme ça. Donc ce qu'on va écouter, c'est l'atelier frein. Alors c'est quoi l'atelier frein? C'est un endroit dans lequel celui qui est le cheminot qui travaille essaie le freinage des locomotives pour voir s'il répond bien, etc. Donc ça travaille beaucoup sur la pneumatique, des sons qui font penser à l'air soufflé, etc. Je peux dire que sur cette musique, ou composition sonore ou mémoire, je sais pas, si on me demande est-ce que c'est de la musique, je ne saurais pas y répondre. Donc je préférerais qu'on ne me le demande pas. Mais je peux essayer d'y répondre. Et donc on va écouter le rapport au frein. Donc toute cette musique a été composée uniquement à partir de sons du travail, sauf dans cette séquence où j'ai utilisé une guitare, Parce que le mardi soir, quand j'allais à l'hôtel, en attendant, puisque j'étais le mardi et mercredi, donc le mardi soir, j'allais à l'hôtel, et les cheminots, quatre d'entre eux faisaient du jazz le mardi soir, ils se réunissent chez eux pour jouer. Donc là, moi qui avais arrêté le trombone depuis 15 ans, même 20 ans, j'ai repris le trombone et j'allais faire du jazz avec eux, avec donc toute la difficulté que j'avais, parce qu'on reprend quand on reprend un instrument. Et donc je passais des soirées comme ça avec eux, jusqu'à échanger aussi un travail, c'est-à-dire à faire de la musique et un plaisir, mais qui l'a remonté à mes origines par rapport à ma formation. Et l'échange allait jusque-là. Et donc, dans cet extrait, j'ai mis effectivement un clin d'œil au guitariste, parce que c'était un guitariste, donc j'ai utilisé des timbres de guitare, quoi. Sinon, dans toute la composition, c'est uniquement à partir de bruit. Donc, on va écouter, ça dure 3 minutes 50. Tu peux lancer
C'est bon.
Bon, Voilà, alors avant de vous donner la parole pour le jeu de questions, je voudrais d'abord vous rappeler ce que vous a dit Lucien, précaution liminaire, ne demandez pas si c'est de la musique, demandez-lui quelle sorte de musique c'est, ça le mettra beaucoup plus à l'aise. Non, moi je voudrais quand même qu'on se rappelle, après avoir écouté ça, des mots essentiels qu'a prononcé Lucien. Il a d'abord parlé de la chance qu'il avait eue de vivre cette expérience de A jusqu'à Z. Il a dit en amont et en aval. Il a employé ensuite l'expression « le souci permanent d'être à l'écoute ». Et il a parlé, j'ai beaucoup aimé ça, c'est la deuxième fois que je l'entends dire, mais pour moi ça correspond exactement à sa démarche et aux résultats obtenus. C'est les liens qui ont été tissés entre ceux chez qui il prenait les bruits et ceux et lui-même. Voilà. Alors, cela étant dit, pour un peu cerner les choses, est-ce que dans la salle, quelqu'un, après Lucien et après cette première audition, veut poser question, faire une remarque? Il y a un micro baladeur. Bon, alors, comme en général, la première question est difficile à venir, qui veut poser la deuxième question? Ça facilite. Ah oui, monsieur.
Ok. Ben, je voudrais poser une question à Lucien Bertolina. Et quel est le lien entre ce travail sur la mémoire et la musique, en fait, le travail de composition? Donc, dans quelle mesure est-ce que ce travail sur la mémoire qui précède la composition ou qui a précédé la composition a-t-il aussi donné des idées pour justement le travail en studio?
C'est pas une façon détournée de me demander, non, te connaissant bien en plus, si c'était encore de la musique. Non, je pense qu'il y a eu un moment, par exemple, mais je vais peut-être pas directement répondre à la question, il y a eu un moment où j'ai paniqué, c'est-à-dire que c'était quand je me suis retrouvé en studio avec tous ces bruits, et j'avais fait un travail d'un mois, et j'ai eu le sentiment que je m'éloignais trop de la mémoire, c'est-à-dire que j'arrivais à partir de ces bruits à faire une composition de musique dite de type électroacoustique, qui m'est arrivé d'en faire, et en même temps, c'est-à-dire de partir de ces bruits et de les transformer tellement, qu'on n'arrive plus à reconnaître leur origine, même si ça rentre ensuite dans une palette musicale, je veux dire, où on peut s'approcher effectivement d'une démarche sur le travail sur les timbres, etc. Donc j'ai paniqué parce que je sentais que d'un coup j'étais plus en équilibre entre le travail sur la mémoire, c'est-à-dire pour moi ce qui était important en même temps que les cheminots, en écoutant cette musique, retrouvent, et j'emploie le terme musique, retrouvent leur unité de travail, c'est-à-dire leur bruit, etc., tout en étant en me situant comme pas uniquement quelqu'un qui aurait fait de l'agencement des sons et qui aurait raconté une histoire à partir de ces sons, mais en travaillant aussi sur les rapports qu'il peut y avoir de masse, les rapports mélodiques, les rapports de contrepoint, enfin tout ce qu'on peut utiliser comme ça dans l'espace sonore par rapport à la composition au concert. Donc c'est quand au départ, volontairement, je dis ne me demandez pas si c'est de la musique, c'est parce que même moi, je ne sais pas y répondre. Donc, je suis pris dans cette incertitude, comme ça, et en même temps, ça m'a toujours intéressé, c'est-à-dire de savoir, de jamais me situer où je pouvais être. Alors, j'ai eu ce moment de panique parce que je sentais que je tirais trop de vers la composition musicale, c'est-à-dire que je lissais les choses, etc. Et j'ai eu peur que les gens ne se reconnaissent plus. J'ai fait un coup de frein et j'ai reconsidéré les choses. Alors, je sais pas, moi, je veux dire qu'on est là en même temps pour parler du disque, etc. Je le défends pas comme quelque chose qui est... Je me pose des questions, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des objets, on se pose des questions, heureusement. Et ce qui m'intéresse, c'est dans toutes les questions que je peux me poser à travers cette démarche, les conditions de déroulement, ma situation en tant que musicien, que compositeur, quelqu'un qui aime travailler sur le son et qui se pose toutes ces questions. Je crois que quelque part, c'est là-dedans et ça traîne, quoi, dans comme je pense que toute création, il y a des choses de cet ordre qui traînent, quoi, qui sont pas forcément dites, ou moi j'ai l'habitude de le dire parce que ça me permet de me sécuriser dans le déséquilibre, mais je crois que c'est comme ça sans arrêt. Mais je réponds peut-être pas bien là. Si? Si.
Ensuite. Oui. Le micro.
qu'est-ce qu'ils m'ont renvoyé ? L'expression que j'ai en dernier ressort, parce que je... Alors, en même temps, j'ai le concert en tête, et ce que j'ai entendu, qui m'a pas marqué, mais l'expression qui en ressort, c'est « tu as musicalisé notre travail ». C'est-à-dire qu'effectivement, tous les sons qui sont là-dedans, même s'ils sont certains réalistes, ça dépend des séquences, il n'y a aucun son qui a été enregistré et agencé tel quel. C'est-à-dire que ça a été tout un retravail de la matière sonore, même si par moment on est très près du bruit réel des choses. Donc il y a toujours ce décalage, c'est-à-dire comme la transposition de quelque chose qui existe et on le reproduit. Le seul fait que de l'enregistrer, c'est déjà le dénaturer, parce qu'on passe par l'enregistrement selon où on met le micro, etc. Donc on interprète. Donc vouloir fixer une mémoire, c'est déjà quelque chose qui est réaliste, et c'est très vrai. Mais si on le pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire si on essaie d'être intègre jusqu'au bout, ça ne veut rien dire, puisque dans la mesure où on fixe, ou alors il faudrait qu'il y ait 36 000 mémoires du même lieu pour essayer de tendre vers la réalité. Donc je pense que la mémoire, c'est de toute façon toujours une sélection, et quand on dit « je perds la mémoire », on perd bien ce qu'on veut perdre, c'est-à-dire qu'elle est toujours sélective. Donc moi, mon travail au niveau de la constitution de cette prise de son, c'était déjà une sélection, c'est-à-dire si je mettais mon micro là et pas là, c'était déjà une sélection. C'est une mémoire sélective, mais de toute façon, toute mémoire est sélective, enfin, quand on la fixe. Et pour répondre directement à la question, donc certaines fois, ils disaient « mais là, c'est nos sons, mais je m'y retrouve pas bien pourtant, etc. » Donc, dans l'écoute, il y avait quand même toujours... de ce que je peux en tirer, le fait que les cheminots étaient plongés dans leur monde de leur monde du travail qui leur était renvoyé, mais qui était quand même en décalage, qui était quelque part en décalage par rapport à l'attendu qu'ils avaient, quoi, quand même. Donc quand ils disent « tu as musicalisé nos sons » ou « tu as musicalisé notre travail ou nos bruits », je pense que pour répondre directement à la question, il y a quelque chose de ça. Alors ce qui m'a fait rire, et plaisir, c'est qu'en même temps, quand le soir du concert, il y avait à peu près 300-350 personnes. Bon, on a tendance des fois à compter parce qu'on est... Je veux dire qu'on est content quand il y a du monde, mais je crois que c'était à peu près ça, quoi. Donc il y avait des gens qui... J'ai assisté à des concerts au départ d'électroacoustique où effectivement les gens des fois riaient parce qu'en même temps c'était tiens, ce son nous fait passer à une chasse d'eau par exemple. Enfin, pour ce qu'ils ont vécu avec moi au départ, ça arrivait. Et puis il y a des concerts d'électroacoustique où aussi on dit rien parce qu'on écoute. Effectivement, il y a la présence d'initiés, etc. Là, ce qui était assez charmant et sympathique, c'est qu'en même temps il y avait des gens que je connaissais qui sont venus ou qui étaient intéressés par l'expérience en tant que composition musicale. Et en même temps, il y avait à peu près une centaine, 150 cheminots qui étaient là et qui n'avaient pas forcément suivi tout le travail, puisque je vous dis qu'il n'y en a que 20, mais qui avaient en même temps cette réflexion, c'est-à-dire qu'ils étaient en couple, là, à côté de leur épouse ou avec leurs enfants, et ils écoutaient, et à un moment donné, ils tapaient sur l'épaule où ils parlaient en disant « là, tu vois, c'est où je travaille, donc tu reconnais ce... » Mais tout en ayant quand même un rapport entre ce qui se passait, c'est-à-dire le lieu qui était magique, la diffusion qui était assez spectaculaire, cette musique qui était diffusée, et en même temps des réflexions de reconnaissance jusque à dire à l'épouse, tiens, alors que l'épouse, et c'est vrai que la famille ne va jamais dans le lieu de travail des gens. Et ça, ça me posait problème parce que je me dis, les femmes de compositeurs ou la famille vont souvent au concert. Ou vont souvent, ou hélas, parfois, oui, des fois c'est bien, parfois hélas. Et là, on s'aperçoit que dans le monde du travail, effectivement, peu de gens de la famille vont... et à la rotonde, je vois jamais. En même temps, on devait organiser une porte ouverte, c'était un problème énorme, quoi, parce que... Bon, en fait, c'est des réflexions un petit peu comme ça, où je...
Oui, mais enfin, moi, je crois que c'est l'intérêt, c'est que tu ne te contentes pas de dire « j'ai vécu une expérience, j'ai fait une œuvre, elle est là, prenez-la telle qu'elle », qu'à partir de ça... comme nous qui découvrons ou qui avons découvert et qui continuons à découvrir l'œuvre, tu te poses toi-même des questions. Et tu as dit tout à l'heure une série de choses qui me font penser au niveau sonore à la phrase qu'emploie Jean-Luc Godard en ce qui concerne le cinématographe quand il dit « ce n'est pas une image juste, c'est juste une image ». Toi, on pourrait dire aussi « ce n'est pas un son juste, c'est juste un son ». Je veux dire, ton illustration, pour moi, ça a été le décalque dans un autre univers. Et c'est important qu'on en soit, et non pas de présenter à nos amis ici présents un objet fini à prendre tel quel. C'est un objet, disons, sur lequel la réflexion s'exerce. Et ce qui est intéressant, c'est que des gens du monde du travail ont été amenés tout au long de la gestation et le jour du concert à se poser, et certains sûrement continuent à se poser ces questions.
Oui, certains continuent à se poser des questions dans la mesure où je retourne les voir, quoi. Alors, à partir de cette expérience, c'est assez quand même marrant, quoi, parce qu'il y avait en même temps deux femmes qui étaient bibliothécaires, Lumila et Catherine, qui faisaient aussi la relation. Et on s'est aperçu que toute ma présence, enfin, je crois, pas toute ma présence, parce que je serais prétentieux de dire que toute ma présence, puisque je la partage quand même, mais que mon passage a provoqué des choses, c'est-à-dire que d'un coup, il y a eu un orchestre qui s'est monté, il y a des cours de batterie que les cheminots organisent, c'est-à-dire le guitariste, par exemple, à qui j'ai fait un clin d'œil là, donne des cours de guitare maintenant dans la rotonde aux ouvriers qui travaillent là. Donc il y a toute une... En dehors de la composition, de tout ce qui s'est passé, etc., il y a une émulation comme ça de on ne sait pas pourquoi, après tout, hein, mais ça a cristallisé, quoi, des choses, un déclic, oui.
Si tu permets, Lucien, avant que nous proposions un deuxième extrait, je vais quand même me tourner vers Catherine Payon et lui dire, mais quelle idée pour la directrice de production de prendre une œuvre comme ceci. C'est quand même moins sûr que de rééditer pour la X plus unième fois les quatre saisons de Vivaldi ou la symphonie pastorale. Et malgré ce, d'ailleurs c'est pas la seule fois que vous l'avez fait, vous avez pris le risque de répondre oui à la demande d'édition d'un disque qui fixe cette mémoire dans l'état où Lucien l'a prise et l'a amenée.
Ce qui nous intéressait, c'est... On parlait tout à l'heure de l'interpénétration entre le monde du travail et le monde artistique. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de... À travers un objet qui, au final, est un produit qui va pouvoir se trouver en vente, notamment ici et ailleurs, de restituer, d'élargir à l'ensemble de à l'environnement et à l'ensemble de la société aussi. Ça, c'était une préoccupation, évidemment, celle-là n'est pas commerciale, mais c'est une préoccupation philosophique qui prévaut à un certain nombre de nos productions. Et là, en l'occurrence, c'était... Je crois que ça s'est fait assez naturellement, assez immédiatement, quand on s'est rencontrés. Ça s'est passé très vite, bien. Je crois que on est arrivé, évidemment, on n'était pas complètement à l'amont, puisqu'on n'était pas du tout à l'initiative de ce travail de résidence, de ce travail de collectage. Mais on a pris, si j'ose dire, le train en route, mais encore assez en amont. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé dans un bureau où nous attendrait... Lucia Bertolina, une bande à la main, mais on a pris les choses un petit peu plus haut. Et c'est notre façon aussi de s'inscrire dans la démarche de façon artistique aussi.
Merci. Je crois que le meilleur plaisir qu'on puisse faire à Catherine, après l'avoir remerciée, c'est de dire aux gens de ne pas oublier d'inscrire sur leur liste d'achat de Noël le disque Cœur de Fer. En offrant ça à votre gamin en même temps que le train électrique, vous lui donnez connaissance de... Non, c'est bon comme argument, hein, ça, d'accord. Voilà, non, c'est plaisanterie mise à part. Non, moi, j'insiste sur le fait qu'empreinte digitale prend quand même un certain nombre de risques dans sa politique éditoriale, et que ce qui arrive ici est l'exemple d'un de ces risques. Il faut dire aussi qu'il y a eu une aide de deniers publics, puisque je crois la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à travers son office régional, a aidé à la réalisation de la chose, n'est-ce pas, Claude?
Dès le départ, quand on fait un projet de résidence, on cherche des partenariats avec les institutions locales, régionales, etc. Donc sur le travail de Lucien Bertolina, c'est-à-dire à la fois son travail de composition, donc toute la résidence, à la fois le concert, et c'est tout d'ailleurs, puisque l'édition du disque n'a pas été aidée. On a eu le partenariat de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Office régional de la culture du Conseil régional et du Conseil général de Vaucluse qui a été intéressé par le projet et donc qui a accepté de nous subventionner aussi. Ce qui nous permet effectivement de mener avec des moyens, avec les moyens nécessaires, enfin de donner toute l'ampleur possible à ce genre de pratiques et d'événements.
Et comme j'ai l'habitude de le dire dans ce genre de choses, moi je me félicite que de temps en temps des élus sachent distribuer là où il faut de l'argent qui n'est pas le leur mais qui est celui de l'ensemble des contribuables du département, de la ville ou de la région. Catherine, vous voulez ajouter ?
Dire que ce genre de production, c'est sûr que c'est pas des choses qui dépotent, comme on peut dire, au niveau commercial. Mais en même temps, puisque je précise la réponse tout à l'heure, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là où on s'inscrit aussi dans la mémoire, c'est que nous travaillons aussi ce que j'appelle le fond de catalogue. Et l'empreinte digitale a un fond de catalogue qui tourne, qui roule. Et ce sont des disques qui se vendent comme ça dans la durée. Alors c'est sûr, c'est pas des disques événementiels sur lesquels on peut faire des opérations avec Radio Star ou je ne sais quoi. Mais encore que pourquoi pas, parce que moi je trouve ça plutôt tout à fait accessible. Et bon, il faut simplement lever le rideau, ôter le voile pour s'en rendre compte. Mais en même temps, ce sont des choses qui... mémoire pour mémoire vont durer longtemps, quoi. Et le fait de le disquer, c'était aussi une façon de lui donner cette amplitude supplémentaire, quoi.
Merci. Alors Lucien, tu nous proposes un deuxième extrait. Tu dis quelques mots sur l'extrait qu'on va entendre.
Finalement, on va partir du 11 au bout de ci. Pas le 10, mais le 11. Donc, c'est un extrait qui s'appelle le Diesel 67000. C'est-à-dire, c'est une locomotive qui s'appelle la 67000. Ces locomotives ne tirent pas des trains de voyageurs, hein, c'est uniquement des marchandises. Et puis le final, alors Diesel 67000, qui est le numéro 11, dure 1 minute 45. Et le final, c'est 3 minutes 15, et voilà, ça fera à peu près 5 minutes. Oui ?
Il faudrait peut-être, puisqu'on écoute les deux derniers morceaux, présenter à nos amis ici présents les différentes plages qui constituent cette œuvre. Donc d'ailleurs, dans un débat récent, nous étions quelques-uns à penser que peut-être pour une plus grande diffusion, il faudrait lui trouver une forme audiovisuelle, chorégraphique, ou cantate, oratorio avec un texte. Tu te rappelles Alors on peut au moins annoncer l'espèce de petit poème.
J'ai pensé, ça m'a fait, avec le, après j'en aurais terminé.
Mais.
L'envie que j'ai eue, c'est d'un coup, j'ai pensé à chorégraphie, quoi. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi pas faire danser les locomotives, hein, c'est...
Ouais.
Ah ben, Stravinsky a bien fait une musique pour faire danser les éléphants. Alors pourquoi pas, toi, tu as fait une musique qui fait danser les locomotives. Alors voilà le petit poème que représentent les titres. Plaque tournante et situations, entrée atelier, la forge, la soudure, et ses freins. Alors le titre, on en parlait tout à l'heure à quelques-uns, absolument sublime, qui s'appelle « Tomber d'un essieu dans l'atelier central ». Graduateur, retour à la situation, tour en fosse, répartiteur, locomotive sur plaque tournante et graissage. Diesel 67000, final. Voilà. Mais bon, j'ironise un peu, semble-t-il, mais en réalité, il faut voir que pour des gens, c'est le pain quotidien. C'est le lot de tous les matins. On va prendre son travail et on est à laisser frein ou on est à la tombée d'un essieu. Et ce qui est formidable, c'est que ces gens-là aient pu dire à Lucien, tu nous as musicalisé. Alors on écoute donc le Diesel 67000 et le final.
C'est un métal, ça s'appelle le régule.
C'est 10 grammes.
Quand tu les coupes, c'est 100 grammes du coup, etc.
Le mig, le tig et le mag, on voit un fil roulé.
Très très puissant.
Soit dans les diesels, soit dans les électriques.
Une série de machines qui servaient à faire les voyageurs.
L'ouverture avec des larmes s'appelle l'archer, un capteur de courant.
Il a averti le gars de GT. Il dit oh, attention, j'ai vu des particules de mica.
C'est qui mettent pour l'embêter.
Je vais leur demander à quelle heure il a fait là.
Bon là j'ai fait un tour reconnecté.
On a le droit à 3 dixièmes.
On est dans la
pression.
Que tu le veuilles ou non, une vision très, très réaliste, la présence multipliée des hommes dans ce final, et malgré tout, le rêve qui est là. On pourrait enchaîner sur la lecture de la prose de la petite Jeanne et du transsibérien. Non, mais c'est pas une provocation, c'est pas gratuit, je veux dire, c'est quelque chose même qui rend tout logique. Voilà, alors... Quelques minutes encore, même une bonne vingtaine, encore quelques questions. Puis, malgré tout, je me tournerai vers Claude Goulois qui nous a parlé de ce qui s'était passé avant et jusqu'à la résidence de Lucien. Mais il y a aussi les projets du CE Cheminot de notre région. Alors, dans la salle, quelqu'un après ses écoutes? Bon, ben alors Claude. Ah oui, Georges, pardon.
Tout à l'heure, tu as parlé un peu des difficultés que tu avais eues à considérer que tu es en train de d'écrire une mémoire, de faire une musique de concert et en même temps de concevoir un disque. Alors, première question, est-ce que le disque est l'intégralité du concert? Oui.
Ah, première.
Oui, c'est ça.
Je réponds immédiatement.
Oui, non, c'est pour savoir si...
Oui, le disque, non, le concert durait 10 minutes de plus.
C'est ça. Donc, j'allais te poser la question. Quelles donc ont été un peu la nature des problèmes que tu as eu en concevoir tout ça et faire un compromis, si le mot est juste, entre tout ça. Et puis, plus précisément, puisqu'on est ici en face un disque, quel a été le type de passage et le type de sélection et le type de traitement qu'il y a entre la production pour le concert et ce reflet qui est sans doute autre pour le disque.
Ok. Une question intéressante, d'ailleurs, parce que ça va me permettre d'en parler un petit peu, parce que j'ai fait que l'aborder, je t'en remercie. C'est effectivement que le concert, c'est un lieu, c'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel se passe le travail. Donc on est en situation où la diffusion est différente, c'est-à-dire qu'il y avait des haut-parleurs, on appelle ça des châteaux, ce sont des haut-parleurs qui font à peu près 2 mètres sur 1,5, quoi, même plus, 3 mètres, puisqu'il y a les tweeters, les médiums, etc., qui ont une très grande puissance, et on avait du public jusqu'à ces haut-parleurs, des distances qui allaient jusqu'à 300 mètres. Donc on avait une possibilité de jouer en même temps sur le lieu, c'est-à-dire la présence des locomotives, la présence du travail directement parce qu'elle était là avec les traces de cambouis, etc. De jouer un temps, premièrement, donc pour répondre maintenant un peu plus précisément, un temps différent, c'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que des passages qui pouvaient paraître un petit peu plus longs dans une écoute comme ça réduite en studio, d'un coup dans la nature et par cet espace, c'est-à-dire la mise en espace du son, le rapport au temps est complètement différent. En même temps, il est toujours, mais là je le dis pas pour Georges parce qu'il le sait très bien, mais je crois pour peut-être ceux qui le savent moins, c'est qu'on est dans un rapport où on compose dans le studio, c'est-à-dire on a deux petits haut-parleurs comme de ce type-là, et d'un coup il faut imaginer l'espace dans lequel ça va être reproduit. Donc on a des rapports comme ça au timbre, à l'espace sonore, c'est-à-dire avoir, quand on compose, c'est-à-dire on a aussi les plans, c'est-à-dire un bruit, sentir s'il vient de loin ou s'il vient de près, c'est-à-dire on appelle ça un son qui sort de la membrane du haut-parleur, ou alors un son qui au contraire donne l'impression d'être très loin. Alors ça, on a cette impression quand on est sur deux haut-parleurs comme ça, et en même temps quand ensuite on travaille sur la profondeur, on a encore une impression. Donc chaque fois, c'est des choses comme ça qu'il faut réajuster. Donc le travail que j'ai réajusté, c'est un rapport au temps. C'est un rapport au timbre, certaines fois sur la forme, c'est-à-dire des éléments comme ça qui apparaissent, bon, ça se justifiait plus dans le lieu. Je réponds là un petit peu en désordre, mais c'est un petit peu toute cette problématique. C'est toujours entre des espaces qui, pour les gens qui travaillent le son, ce sont des espaces chaque fois différents, quoi. Donc je me souviens d'une pièce de Jacques Diéné qui avait appelé ça il y a 15 ans, espace réel, espace virtuel, et je trouve que le terme était juste, parce que l'espace réel, c'est l'espace dans lequel on diffuse la musique, et l'espace virtuel, je crois pas me tromper, et l'espace virtuel, c'est effectivement l'espace qui est donné par la musique elle-même. Donc on est toujours dans un rapport entre cette confrontation et cette rencontre, entre un espace réel et un espace virtuel. Et en même temps, je crois qu'il y a des notions qui sont autres que du terme de l'acoustique pure et dure, quoi, ou pure. C'est qu'on était dans un lieu à 10h le soir, au mois de juin, un lieu magnifique. Il y a une chose que j'ai pas prise en compte, et j'ai oublié, et je m'en suis rendu compte, pourtant on est allé faire des repères, c'est que derrière, à 400 mètres du lieu où il y avait la régie, il y a une voix. Et c'est marrant parce que dans la journée, il passe peu de trains, ou on les remarque moins. Et la nuit, il passe des trains, comme ça. Et on n'allait pas effectivement appeler la SNCF pour savoir à quelle heure allait passer le train, donc lancer la musique. Bon, en plus, on sait toujours que les trains sont en retard, ou en avance. Mais donc, ça a été comme ça un concours de circonstances qui fait que dans la musique, il y a eu un silence qui s'était instauré. Ça, je me souviens très, très bien puisque je suis à la console. Et le train est arrivé, comme ça, il est passé. Donc, il a eu son...
Et on a cru que tu l'avais fait exprès. On m'a dit, il avait fait...
Non, j'ai pas fait exprès. Ça, c'est des moyens que je n'avais pas d'aller jusque-là, quoi. Mais d'un coup, les choses se sont inscrites comme ça, naturellement. Enfin, ce sont des images que je donne. Je crois que j'ai commencé un peu à répondre, pas dans la globalité, parce qu'après, il faudrait qu'on aille dans des tas de...
Pour Cœur de Fer 2, nous reprendrons cette discussion.
Voilà.
Cœur de Fer, la suite. Bon, alors, Claude, justement, on parle de suite. C'est pas Cœur de Fer, mais il y aura autre chose.
Alors, sur enfin dans la suite logique de Cœur de Fer et dans la suite directe du travail de Lucien Bertolina. Actuellement, il y a en production un film sur support vidéo VHS que l'on a commandé à un jeune vidéaste qui s'appelle Philippe Catala. Et donc, qu'il est en train de réaliser actuellement, donc qui servira un petit peu d'introduction à l'écoute du disque et en même temps, bon, qui sera un petit peu une petite promenade comme ça sur les traces de ce qu'a fait Lucien Bertolina. En même temps, un projet moins avancé. Qui serait, puisque Lucien a fait énormément de prises de son et énormément d'interviews, donc qui serait de prendre là la mémoire au premier degré, c'est-à-dire décortiquer un peu les interviews et les reclasser un petit peu, les ordonner de façon à ce que ce soit quelque chose de cohérent et relativement facile à exploiter. Et là, ça ferait l'objet donc d'un autre disque ou d'une cassette audio avec un petit livret de photos de la rotonde et donc qui représenterait les gens en situation dans cet espace, de façon à ce que les gens, les personnes avec l'ensemble de ces matériels puissent se représenter exactement tout ce qui s'est passé et comment les choses se sont élaborées. Voilà, ça c'est les projets donc qui seront en 94 immédiatement liés au travail de Lucien Bertolina. Sur la musique contemporaine, on a à partir de janvier un musicien résident à Nice cette fois, puisque on diversifie les lieux aussi sur la région. Donc c'est un compositeur qui s'appelle Jean-Michel Bossini, qui travaille sur la musique contemporaine. Donc il a travaillé pendant tout un temps sur la musique répétitive, musique sérielle et tout ça. Et il travaille aussi sur les voix, donc sur la voix chantée, y compris il va travailler là. Et le projet que l'on a avec Jean-Michel Bossini, c'est une composition qui partirait de ce que peut être un hall de gare. Donc un hall de gare, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui circulent, des gens dont on ne sait pas toujours trop d'où ils viennent ni où ils vont, donc c'est peut-être ce qui fait l'intérêt de la chose. Et en plus, c'est un lieu cosmopolite, donc il y a des histoires et des cultures qui, comme ça, qui se croisent. L'idée, c'est à partir de ces éléments d'en faire une composition qui reflèterait un peu ça. Ça rentre tout à fait dans le cadre du travail et des recherches de Jean-Michel Bossini. Donc voilà, ça c'est le projet. Puis un projet d'écrivain résident aussi. Bon, alors là, c'est une petite anecdote. On a envie d'explorer et d'avoir des pensées socratiques ou anti-socratiques, je ne sais pas, par rapport à ce qui se passe à la SNCF en ce moment. Et donc on a demandé à un écrivain de rencontrer les personnels commerciaux de la SNCF et avec eux d'élaborer une fiction.
Je te signale qu'Éric Satie a déjà écrit La mort de Socrate. Excusez-moi.
Non, simplement, la crainte que l'on a actuellement, c'est que dans quelques générations, quand les enfants demanderont qui était Socrate, on leur répondra une machine à distribuer des billets, et donc on voudrait pas oublier l'autre, voilà.
Merci. Bon, là, on a eu les projets du CE, peut-être en deux mots, Catherine, un projet immédiat d'empreinte digitale, là, qui vous tient à cœur, là, de dire en deux mots. Et puis Lucien, tu nous diras aussi dans l'immédiat quel est le projet qui te tient à cœur. On sort un peu de Cœur de Fer. Catherine.
Ce que je pourrais dire, c'est parce qu'on est en période de sortie et de parution, donc signaler quelques parutions dans un très très beau disque.
Ils sont tous très beaux.
Consacré à Prokofiev et à Baba Janian. Baba Janian est un compositeur d'Arménie soviétique, enfin arménien de nom de la diaspora, et qui méritait d'être connu. Là, c'est le premier enregistrement mondial de cette sonate pour violon et piano. Donc là, on sort un petit peu du répertoire contemporain de la fin du siècle. On fait des incursions dans le passé, si j'ose dire. Sinon, donc ça, c'est un disque absolument magnifique. Il doit être disponible actuellement. À partir du mois de janvier, il y a un disque que nous coéditons avec le Festival des 38e Rugissants, qui est en train de finir son édition actuelle. Et donc, c'est à l'occasion du 5e anniversaire que nous avons du festival, que nous avons décidé de coéditer. C'est une sorte de compilation. Ce disque sera en vente à partir du mois de janvier. C'est un beau cadeau parce que c'est un disque avec un livret très épais, qui contient une nouvelle littéraire, et qui sera vendu au même prix que les autres disques, ceux qui ont des livrets de 4 pages, par exemple. Donc c'est un petit cadeau en plus, on aime bien faire ça. Et puis sinon on va sortir un disque très très important pour l'histoire de la musique aussi. C'est le troisième disque, la troisième production que nous signons avec Yves Robert, et qui s'appellera Yves Robert tout court, Tout de suite, qui est la suite de Tout court, qui était le premier disque que nous avions fait avec lui. Alors là, on est dans le registre appelé jazz, mais donc on est toujours aussi à la fin de dans la création de la fin du 20e. Et puis sinon quelques sorties baroques comme Buxtehude, un certain nombre d'autres productions dont je ne peux pas vous parler parce que c'est encore trop confidentiel. Et puis pour le mois de mars, une très très grosse production, une très très belle production dont nous sommes en train de fignoler le montage financier, un petit peu difficile par les temps qui courent. Et qui, lui, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet qui relève de ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est un travail sur des textes arabo-andalous du XIe siècle et qui ont été mis en musique par un compositeur syro-libanais. Syro avec un Y, évidemment, sinon il est assez sombre. Et qui conjugue trois traditions orchestrales, puisqu'on retrouve flamenco, orchestre oriental et occidental. Ne croyez surtout pas que c'est la salade de fruits et la tarte à la crème. Non, il s'agit là d'une démarche qui est partie de l'intérieur, et cette orchestration s'est révélée par le compositeur nécessaire. Hein, ça n'est pas un produit de marketing, enfin je ne pense pas qu'on puisse nous faire ce genre de procès. Mais je pense par contre que ce projet cette création qui va être chantée par deux voix, l'une en arabe, l'autre en espagnol, qui vont se conjuguer, qui est en même temps polyphonique, polyglottique, polyrythmique, tout ce que vous voulez. Pour nous, important, bien évidemment au niveau musical, mais là encore une fois, au niveau philosophique, au niveau politique, et en plus au niveau commercial, parce que on pense que un disque de cette taille, présenté dans un rayon qui est un rayon en expansion au niveau du chiffre d'affaires de la FNAC, qui est le rayon des musiques du monde, devrait nous faire commencer l'année avec de bien belles choses.
On vous la souhaite bonne et heureuse cette année 94 autour de tous ces projets. Et dans l'immédiat, Lucien Bertolina, en dehors du réveillon et de la cuite habituelle, tu prévois quoi ?
Non, en plus, oui. Il y a toujours des projets à long terme comme ça, puis des projets à court terme. Donc moi je suis en train depuis 3 ans de faire une musique sur Marseille. Bon, en même temps c'est une ville qui me fascine, qui par moments m'exaspère et qui m'attire. Bon, mais c'est ces allers-retours comme ça qui me... Donc ça, c'est plus un secret puisque je le dis, mais c'est dans le temps, quoi. Ça peut durer 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça n'a pas d'importance. Et pour des projets communs, c'est 2 créations radiophoniques, c'est-à-dire c'est une mémoire sur le premier que je fais avec Françoise de Bresse, qui travaille aussi la création radiophonique, qui est une mémoire sur la CEITA, c'est-à-dire l'usine qui a fermé ses portes il y a 2 ans et demi. Et comme je suis accueilli à la Friche Label de Mai, que j'ai profité un pas de l'occasion, parce qu'en même temps j'y suis un peu allé pour ça, c'est-à-dire travailler cette en faisant revenir, vite deux mots comme ça, on a fait revenir une dizaine d'ouvriers, et on avait les clés pour rentrer dans l'usine qui est abandonnée, c'est-à-dire la partie qui n'est pas occupée par les friches, où il y a encore toutes les machines décomposées comme ça, parce que on a pris des boulons pour envoyer, etc., etc. Donc pour envoyer dans d'autres usines, et les ouvriers redécouvrent leur usine deux ans après. Il y en a même qui retrouvent des fiches de paye, enfin des choses comme ça, quoi. Ça va jusqu'à des situations assez marrantes. Et l'autre projet, alors ça c'est un projet qui est pratiquement fini sur la CEITA. Et le deuxième, c'est quelque chose que je traîne encore depuis deux ans et demi, mais qui va aboutir fin janvier, je pense. C'est sur la Mounine, c'est-à-dire le texte de Francis Ponge. Et on a eu la chance d'avoir un entretien avec Francis Ponge un an avant qu'il meure, alors qu'il en a accordé très peu, justement sur ce texte, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a écrit ce texte dans les années 42, là il y a tout le rapport à la mémoire, c'est-à-dire qu'il se souvenait de ce lieu, etc., etc. Et avec le copain, on est allé faire des repérages sur le lieu. Donc c'est tout encore une question de mémoire qui me travaille sur ce lieu qui est pour moi qui est devenu magique aussi quelque part, quoi. Donc le texte de la Mounine de Francis Ponge est très beau, comme le sont les autres, mais celui-ci particulièrement. Ensuite, quand on habite Marseille, qu'on lit la Mounine, qu'on sait qu'on peut y aller en 5 minutes, quoi, en voiture, et qu'on retrouve des traces de ce dont il nous parle. Et puis Francis Ponge, avec toute la réflexion qu'il avait au moment de sa mort et toutes ses hésitations, sa générosité, quoi. Voilà, c'est un petit peu...
Voilà, bien écoutez, merci à tous, merci Catherine, merci Claude et merci Lucien, merci à vous. N'oubliez pas, dans les rayons entre Berlioz et Bizet, je m'étais trompé tout à l'heure, entre Berlioz et Bizet, vous trouvez Bertolina, entre la Marche hongroise et Carmen, vous trouvez Cœur de fer, n'hésitez pas, un beau cadeau, une belle œuvre à écouter, surtout alimentée par les réflexions que nous a livrées, une fois de plus, Lucien, avec beaucoup de modestie, beaucoup de simplicité, et comme je disais en commençant, la grande humanité qui a caractérisé tout ce qu'il a toujours fait. Merci à tous. Merci. Et passez de bonnes fêtes.